Bonjour. Il y a presque 50 ans, un demi-siècle, je me suis rendu à Jérusalem pour la première fois, muni d'un sac à dos, une carte géographique, topographique et une boussole. Et pendant 3 semaines, j'ai traversé à pied, en car, en taxi, le maximum possible du pays d'Israël. Et je me souviens bien, en arrivant à Tel Aviv avec un vol Thaïlande de Paris, on arrive le soir et je dois prendre un car pour monter à Jérusalem. Et en arrivant à Jérusalem, la nuit est déjà tombée. Et j'entre dans l'ancienne ville de Jérusalem où j'ai réservé une chambre. Et vers minuit, je monte sur le toit de cet immeuble. On avait le droit de monter sur le toit. Et j'avais une vue panoramique de la ville de Jérusalem de nuit. Et aussi avec des cris d'Allah. La prière d'Allah était vers aussi de minuit. Et je me sentais dans un autre monde. Jérusalem, c'est le centre spirituel universel du monde presque. Les trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme, l'islam, c'est en quelque sorte le centre spirituel. En étant est consacré à la louange de Jérusalem, dans le psaume 87, où Jérusalem est personnifié. Je lis dans ma version, Parole de vie, 87. Le Seigneur a bâti Jérusalem sur des montagnes saintes. Il a préféré à toutes les villes du pays de Jacob. Il parle de ta gloire, ville de Dieu. Le Seigneur dit en effet, parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d'Égypte, de Babylone, de Philistine, de Tyr, d'Éthiopie. C'est là-bas qu'ils sont nés. Mais de Jérusalem, on doit dire, tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu lui-même l'a bâti. Le Seigneur compte les peuples. Il écrit sur son livre pour chacun né à Jérusalem. On parle d'un sens spirituel. Au ville de Dieu, les gens dansent et chantent. Tu es toute notre joie. Ville de Jérusalem. De ce matin, je l'ai pitché, montons à Jérusalem. Et je lis le texte dans Marc, chapitre 10. J'ai toujours la version forme de vie, c'est un peu différent de ce que vous avez entre vos mains. Les trois synoptiques, Marc et Luc, nous disent que, après 2 ans d'expérience, il était question de quitter la Galilée. La majorité de son ministère s'est passé en Galilée. Et selon Luc, il fallait 6 mois pour monter à Jérusalem parce qu'il a fait un trajet un peu différent. Et en arrivant à Jérusalem, les choses étonnantes vont se passer. Les apôtres ne s'attendaient pas à ce que Jésus annonce qu'il allait mourir, souffrir et se relever de la mort. Et les apôtres sont, qu'est-ce qu'il veut dire par là? J'aimerais lire ce texte, Marc chapitre 10, à partir du verset 32, qui est la troisième fois que Jésus annonce à ses apôtres qu'il allait souffrir, mourir et être relevé de la mort. Et chaque fois, si on lit les textes parallèles dans Matthieu et Luc, on dit que les apôtres sont complètement désorientés. Ils ne comprennent rien du tout de ce qu'il veut dire. Marc chapitre 10, verset 32. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés. Les apôtres sont effrayés. Et ceux qui les accompagnent ont peur. Le texte ne dit pas pourquoi, mais nous pouvons soupçonner. Jésus a beaucoup d'ennemis à Jérusalem. C'est pour ce qu'il dit, il ne monte pas souvent à Jérusalem. Ce serait de mourir avant son temps. Et donc, le peu qu'il a déjà visité Jérusalem, selon l'évangile de Jean, on voit qu'il a beaucoup d'ennemis à Jérusalem. Mais en Galilée, il est entouré par des milliers de personnes qu'il apprécie, au point où les gens l'apprécient tellement qu'il ne peut plus entrer librement dans les villages pour ne pas être écrasé par la foule qui voulait se rapprocher de lui, le toucher, l'entendre. Mais monter à Jérusalem, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi est-ce qu'on monte à Jérusalem? De nouveau, Jésus prend avec lui les 12 apôtres pour leur parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. Écoutez, écoutez. C'est un mot clé dans les murs. Celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il écoute. Et quand Jésus dit écouter, il y a quelque chose d'important à dire. Nous, pas seulement lui, nous montons à Jérusalem. Et j'aimerais suggérer que nous montions ce matin à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs et prêtres, et eux, prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort, le livre et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui vont se moquer de lui. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, mais ils devront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Luc nous dit que ce même texte, comme d'habitude, les disciples ne comprennent rien à cela. Ça, c'est la traduction de Luc, Luc 18, 31. Comme d'habitude, les disciples ne comprennent rien à cela. Troisième fois, ils ne comprennent rien à cela. Ça semble clair, non, quand on lit le texte. Mais il y avait quelque chose qui échappait aux apôtres. Leur incapacité de comprendre n'est pas à cause des mots que Jésus utilise, mais dans l'état spirituel des disciples. Ce n'est pas des mots qui sont incompréhensibles. C'est le sens de ces mots. Et pour les comprendre, il faut une certaine manière de penser. De pensée et intérêt des apôtres sont égoïstes. On le dira dans quelques instants. De pensée et intérêt personnel égoïste les empêchent de voir autre chose que ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, c'est-à-dire régner avec Christ dans sa gloire. En disant la suite de ce texte, ensuite, après avoir annoncé pour la troisième fois, et Luc nous dit, ils n'ont rien compris. Ensuite, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et lui disent, « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus le dit, « Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» C'est souvent le cas quand nous lisons notre Bible. Le Seigneur nous dit quelque chose et nous sommes préoccupés par ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Et pour changer de direction, il faut prendre au sérieux ce que Jésus a dit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et chers amis, nous qui réclamons de Jésus-Christ, nous ne sommes pas là pour nous servir, mais pour servir. Et quand Jésus dit quelque chose de si important qu'il allait souffrir, mourir, etc., il ne comprend rien. Et avec cette attitude, on comprend. Souvent, nos lectures bibliques ou les prédications de dimanche nous échappent complètement parce que nous sommes ailleurs. Notre intérêt est ailleurs. Jésus invite, en quelque sorte, il nous invite ce matin de monter à Jérusalem. On peut penser à ce moment littéral ou historique. Pour les disciples, c'est suivre Jésus à pied, à travers la Samarie, et sans menacer les Samaritains. Parce que quand on lit le texte parallèle dans Luc, quand Jésus parle de monter à Jérusalem, il est question que les Samaritains, qui détestent les Juifs, risquent de poser des problèmes. Et quand ils commencent à traverser la Samarie, effectivement, ça se passe. Les Samaritains sont très accueillants. Et Jacques et Jean disent à Jésus, « Seigneur, voilà ce qui se passe. Si tu veux, nous allons commander au feu de descendre du ciel et de détruire ces gens-là. » Il parle à la hérésie avec le groupe de 50 faux prophètes consumés par le feu. Vous voyez la mentalité des 12 apôtres après deux ans et demi avec Jésus, 24 heures sur 24, sauf pour une petite période lorsqu'ils sont partis en mission deux par deux. Et le problème d'être confronté par l'hostilité des Samaritains, de penser, eh bien, on a beaucoup de pouvoir. Ils l'ont expérimenté lors de voyage, ils ont guéri les malades, ils ont ressuscité même les morts, le texte dit. Eh bien, le Seigneur, on va mettre un terme à ce problème. On va commander que le feu descende du ciel. On comprend pourquoi les apôtres ont du mal à comprendre Jésus. Jésus doit monter à Jérusalem. Pour les disciples, c'est un problème. Pour Jésus, c'est la culmination de son ministère. C'est surtout à Jérusalem où il doit quitter ce monde et achever la bonté de son Père. Aujourd'hui, demain et les jours suivants, je dois continuer ma route. En effet, il est impossible pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Il dit cela de manière dogmatique. Il y avait quelques prophètes qui sont morts en dehors de Jérusalem, mais d'une manière globale, c'est le cas de tous les prophètes ou d'un prophète de mourir à Jérusalem. Jésus est le plus grand des prophètes. Et si tous les prophètes, surtout le plus grand, doivent mourir à Jérusalem. Ça, c'est les circonstances matérielles. Et nous allons penser maintenant à un sens métaphorique ou figuratif. Nous allons accompagner Jésus à Jérusalem. Et quand nous arrivons à Jérusalem, nous sommes scandalisés, pour ne pas plus, Jésus se laisse tu es. Jésus est assassiné. Et les apôtres sont là, impuissants de comprendre pourquoi. Pourtant, il a dit, voilà ce qui allait se passer. Ils sont scandalisés. Ils ne savent plus quoi penser. Parce que mourir en soi est un scandale. Surtout si c'est une question d'être crucifié. Au sens figuratif, Jésus nous invite à mourir à nous-mêmes. Jésus est le lieu où les disciples doivent eux aussi mourir avec Jésus. Dans un premier temps, ils pensaient que ça allait se passer littéralement. Et quand Jésus est arrêté, il prend la fuite. Et pendant un certain temps, il se cache à Jérusalem. Et s'ils ont arrêté et tué le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? C'est un vrai problème. Qui veut mourir? Levez la main. Même Pierre qui est le plus brave des douze est dans le cour intérieur. Et comme la jeune fille dit, mais il est un de ses disciples, il est de Galilée. Il dit, je ne connais pas cet homme. Trois fois. Et vous, et moi, combien de fois avons-nous dit, je ne connais pas cet homme. Je ne veux pas ce qu'il veut de moi. Paul nous dit, Galates 2, 19, Paul dit avec le Christ, je suis mort sur la croix. Ça, c'est au sens métaphorique ou figuratif. Mort sur la croix. Mourir avec Jésus veut dire ne plus vivre pour nous-mêmes. La prière de Jésus est dans le jardin de Gethsémani, c'est quoi? Seigneur, si c'est possible, je ne veux pas mourir sur la croix. Mais que ta volonté soit faite. Et ça doit être notre prière. Nous ne cherchons pas à souffrir, à mourir, à se faire crucifier. Et si c'est la volonté de Dieu, oui. Mourir avec Jésus veut dire ne plus vivre pour soi-même. Je vais lire un texte dans Éphésiens, chapitre 15. Notre vie de non-croyant, de non-disciple, doit s'arrêter pile. Notre vie ancienne n'a plus de place lorsqu'on devient disciple de Jésus. Nous lisons dans l'épître aux Éphésiens. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Ça, c'est notre monde. Et ça, c'est notre vie, d'une manière ou d'une autre, avant de rencontrer Christ. Combien de désordre était-il dans notre vie de non-chrétiens, de non-croyants? On se permettait beaucoup de choses qui sont indignes de Dieu et certainement indignes de notre Seigneur. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut abandonner cette vie de non-croyants. Il se peut que certains disent « Je suis croyant, mais ma vie ne le montre pas. » Il faut abandonner cela. Et quand on monte à Jérusalem, Jésus nous invite à abandonner notre vie de non-disciples, de non-croyants. Mais il y a autre chose que d'abandonner ce qui ne convient pas, c'est d'entrer dans ce qui convient. Jérusalem est aussi le lieu où les disciples partagent la résurrection vie de Jésus. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Colossiens 3, 1 à 3. Le Christ est votre vie. Quand on monte à Jérusalem, ce n'est pas seulement pour mourir à notre vieil homme, mais pour entrer aussi dans cette vie nouvelle que le Seigneur nous offre. Nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Maintenant, il est vivant. Et sa vie est toute entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparé du péché. Mais en étant uni à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Il parle là, bien sûr, de manière métaphorique. Nous ne sommes pas encore cloués à une croix et nous ne connaissons pas tout à fait encore la résurrection dans sa plénitude. Mais le commencement est là. Et à force d'écouter le Maître, à force de suivre le Maître, on finit par l'aimer. On finit par vouloir être comme lui. On finit par dire non à soi-même pour dire oui à lui. C'est difficile de mourir à soi-même. Ce n'est pas une chose accomplie une fois pour toutes. Ce serait formidable si on pouvait dire « Un jour, c'est fini, je ne vis plus pour moi-même. » Et prier le lendemain. Il faut reprendre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Chaque jour, qui porte sa croix chaque jour. Ça nous rappelle que nous vivons en quelque sorte 24 heures par 24. Heureusement, il y a un petit repos entre les jours de travail. Mais chaque fois que le nouveau jour commence, il est à nouveau à renouveler cette relation, cet engagement avec le Seigneur. Nous parlons du culte personnel. Nous avons, beaucoup d'entre nous, peut-être tous, l'habitude de commencer la journée avec un moment de réflexion et de prière. C'est une bonne habitude. Que ce soit tôt le matin, que ce soit plus tard dans la journée, il est essentiel que chacun prenne le temps d'écouter le Maître. Pour ne pas s'endormir, pour ne pas retomber dans nos anciennes attitudes, notre manière de vivre. Je ne parle pas là de gros péchés, comme on le dit. mais de notre manière de nous comporter avec les personnes le plus près de chez nous. Le problème d'impatience, le problème de jalousie, le problème de colère. Nous devons abandonner ces problèmes de jalousie, de colère, d'impatience, de rechercher notre intérêt avant tout. Tous les jours. Tous les jours. Si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous devons sérieusement, chaque jour, porter notre croix. Ne plus vivre pour nous-mêmes et nous efforcer à vivre dans ce monde comme Jésus a vécu. Il y a beaucoup de textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent justement de la vie de Jésus, sa vie privée, sa vie qu'il menait tous les jours. En Pierre 2, en effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Mais si vous souffrez avec patience, quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin. Il vous a montré le chemin. Nous montons à Jérusalem pour mourir et éprouver, expérimenter la vie nouvelle. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Oui, quand on l'a insulté, il n'a pas répondu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché, pour nous-mêmes. Et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ces blessures qui vous a guéri. Oui, vous étiez comme des moutons perdus. Notre vie de non-disciples, de non-croyants. Vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Le Seigneur nous appelle à vivre autrement. Une vie bénie par sa présence et par ce qu'il veut faire dans notre vie, grâce à sa miséricorde, à sa grâce. Que le Seigneur agisse en nous pour que sa volonté s'accomplisse. Si nous sommes morts et ressuscités avec le Christ, nous devons sérieusement, chaque jour, porter notre croix. Que la parole du Christ habite en vous, en moi, en nous. Montons à Jérusalem avec le Christ et nous verrons une vie nouvelle. Prions. Père, on te remercie de nous rappeler ce matin encore le privilège de monter à Jérusalem avec Jésus. Oui, pour mettre un terme à notre égoïsme et pour expérimenter cette vie nouvelle. Seigneur, pardonne-nous de nos infidélités. Pardonne-nous de notre manque de sérieux. Et viens à notre secours afin que nous montions vraiment avec ton Fils et que nous voyions vraiment les victoires que nous apportera. À la gloire de ton nom. Amen.